Et ensuite, on arrive à l'approbation du compte financier unique 2024, hein, qui remplace le compte administratif et le compte de gestion pour la première année. Monsieur Scheuer.
Oui, merci Monsieur le maire, mesdames, messieurs, mes chers collègues. Le compte financier unique, CFU, est un document budgétaire qui remplace à la fois le compte de gestion et le compte administratif. Le regroupement des informations financières au sein d'un document unique permet non seulement une meilleure lisibilité, mais aussi une simplification administrative, puisque désormais l'ordonnateur et le comptable public ont la même base de travail. Après une phase d'expérimentation, la loi de finances de 2024 généralise le CFU et le rend obligatoire en 2027 pour les comptes de l'exercice budgétaire de 2026. Nous avons décidé, dans une démarche constante d'amélioration, de transparence et de clarté, d'anticiper cette obligation en présentant dès à présent l'exercice budgétaire 2024 sous la forme nouvelle. À noter que le vote du compte financier unique doit intervenir au plus tard le 30 juin. Par ailleurs, figure dans ce CFU une nouveauté, c'est une nouvelle annexe budgétaire qui vise à mesurer l'impact du budget sur la transition écologique. On parle de budget vert. Je l'évoquerai dans quelques minutes. Je vous propose de dresser dans les grandes lignes les résultats du compte financier unique au titre de l'exercice 2024. En effet, les différents chiffres et indicateurs sont parfaitement alignés avec ceux présentés il y a quelques semaines lors du débat d'orientation budgétaire et lors du vote du budget primitif. L'exercice 2024 est plus que jamais marqué par des événements majeurs qui impactent le budget de notre ville. Il s'inscrit, à l'instar des exercices précédents, dans un contexte international particulièrement dégradé et dans un contexte national incertain dans lequel les finances publiques sont pour le moins préoccupantes. Rappelons l'effort, ou je dirais même la pression budgétaire conséquente de plus de 2 milliards qui est demandée aux collectivités locales. En dépit de ce contexte dégradé et contraint, et dans la continuité des exercices précédents, les résultats du compte financier unique témoignent de la préservation d'une santé financière saine, avec un très bon niveau de l'ensemble des ratios de solvabilité financière de la ville. Nous affichons des résultats financiers solides grâce à une gestion responsable et rigoureuse du budget tout au long de l'année. La section de fonctionnement affiche 28,4 millions d'euros au titre des dépenses, avec un taux de réalisation de plus de 94%, et 31,1 millions en recettes, avec un taux de réalisation de plus de 100%. Elle dégage un résultat de 2,7 millions, auquel on rajoute un excédent antérieur reporté de 7,2 millions, ce qui fait un résultat cumulé de 9,9 millions. La section d'investissement, quant à elle, affiche en dépenses 8,9 millions d'euros et 5,8 millions en recettes, soit un besoin de financement de 3 millions, qui est compensé par un excédent antérieur reporté de 5 millions, ce qui conduit à un résultat de 2 millions d'euros. Ainsi, le résultat de clôture de l'exercice 2024, hors reste à réaliser, s'élève à 11,9 millions d'euros. Ce résultat excédentaire constitue une réserve disponible pour l'avenir dédiée au financement du programme ambitieux d'investissement que nous portons. Vous avez dans la note de présentation le détail par chapitre ainsi que les explications. Nous les avions commentées longuement lors du débat d'orientation budgétaire et du budget primitif. Je vous propose de ne pas y revenir. Nous maintenons ainsi une capacité d'autofinancement au-dessus de 5 millions d'euros, de plus de 5 millions à 5,2 millions d'euros, ce qui est très bon. Le niveau d'endettement est particulièrement bas grâce à notre politique volontariste de désendettement. L'endettement par habitant est de seulement 97 euros, alors qu'il est de 990 euros en moyenne fin 2023 pour les communes de la même strate. La capacité de désendettement demeure à un niveau extrêmement bas, avec une durée d'à peine 0,5 années. Le niveau d'investissement pour l'attractivité et la qualité de vie de nos concitoyens a une nouvelle fois progressé pour dépasser les 7,9 millions d'euros en 2024. On est sur le plus haut niveau d'investissement depuis très longtemps. Le compte financier unique affiche ainsi des ratios de solvabilité des indicateurs financiers qui témoignent d'une santé financière saine. Les résultats ont été obtenus grâce à une gestion responsable et rigoureuse du budget tout au long de l'année 2024. J'évoquais au début de mon intervention une nouvelle annexe budgétaire, le budget vert. Cette annexe permet de mesurer et de valoriser les choix d'investissement qui ont un impact positif sur l'environnement. La mesure de l'impact environnemental conduit à qualifier les dépenses soit de favorables, de défavorables ou de neutres au regard de plusieurs axes. Il y en a 6. Par exemple, le premier axe, c'est l'atténuation du changement climatique. On considérera comme favorable une mesure qui est prise, qui vise à réduire les émissions à gaz à effet de serre. On considérera une dépense défavorable dès lors qu'elle est incompatible avec l'objectif de neutralité carbone. Et enfin, il y a des dépenses neutres qui n'ont aucun impact significatif sur les émissions de gaz à effet de serre. Un décret de juillet 2024 prévoit une mise en œuvre progressive du dispositif. Toutefois, là encore, nous avons souhaité aller au-delà et analyser l'ensemble des dépenses d'investissement, notamment les subventions d'investissement. L'analyse s'est faite sur la base d'une méthode recommandée par l'État pour l'ensemble des collectivités. Et la maquette présente l'analyse par nature et par fonction. Vous la trouvez, bien sûr, dans la délibération. Alors, nous pouvons citer comme dépenses favorables un certain nombre d'éléments. Elles représentent 74,4% des dépenses et s'élèvent à 5,8 millions. On citera le hall des sports pour 2,805 millions. C'est une construction qui respecte les seuils réglementaires de performance énergétique. On peut citer l'opération de rénovation de l'éclairage public pour 1,4 million, rénovation qui permet également de réduire la consommation d'énergie. On citera la végétalisation du Forum de Lille, un montant de 259 000 euros, développement de la zone arborisée permettant de séquestrer davantage de CO2, la végétalisation des cours d'école et les subventions versées aux particuliers pour l'acquisition d'un vélo électrique, entre autres. Les dépenses défavorables représentent, elles, 2,9% des dépenses analysées et s'élèvent à un montant de 231 000 euros. Elle prend principalement en compte l'acquisition de matériel informatique et on peut le comprendre le pourquoi de cette dépense qui est classée défavorable. Enfin, la dépense neutre représente 22,7% des dépenses analysées et s'élève à 1,7 million et elle prend principalement en compte des travaux de rénovation et des achats de mobilier. Ainsi, mesdames, messieurs, monsieur le maire, mes chers collègues, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi de finances pour 2025 qui généralise le compte financier unique, vu la note de présentation retraçant l'ensemble des informations, considérant que l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 sont retracées dans le compte financier unique, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le compte financier unique pour l'exercice 2024. Je vous remercie.
Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet, Monsieur Barman, Madame Gendreau? Monsieur Barman.
Oui, ma remarque portera simplement sur la dernière partie qui concerne l'annexe sur le budget de la transition écologique. Je trouve, alors bon, après, derrière la méthode I4CE. N'est pas une méthode très précise, ce sont des recommandations, donc elle prête à une interprétation forte ça m'amène à trouver, après c'est une question d'appréciation, mais que la façon dont ont été appréciés les investissements manque d'ambition dans l'approche, dans la mesure où aujourd'hui, je prends les bâtiments en particulier, la plupart des bâtiments donc, ont des normes réglementaires et le respect des normes réglementaires n'est pas vraiment en soi un élément dont on peut se féliciter. On dirait plutôt encore heureux que vous respectiez les normes réglementaires. On sait très bien que ces normes, et notamment les seuils réglementaires, sont amenés à évoluer. Et si on prend la stratégie nationale bas carbone, les trajectoires nous amènent à une... encore loin de la neutralité carbone en 2050, parce qu'on sait que l'impact environnemental et en particulier sur le réchauffement climatique de la construction de logements est particulièrement défavorable. Donc par nature, la construction est défavorable. Considérer qu'un hall des sports, qui est un bâtiment qui n'existait pas jusqu'à là, de ce fait, et parce qu'il serait sur les seuils réglementaires, a un effet favorable à la réduction du réchauffement climatique, vous m'excuserez, mais ça tend à la rigolade. Je n'intègre même pas l'analyse du cycle de vie dans cette réflexion, parce qu'alors là, tous les matériaux qui ont été mobilisés, parce qu'il n'est pas en bois, il faut bien reconnaître que toute l'enveloppe est en béton, et le béton est extrêmement défavorable en termes de production de carbone. Le bois en capte un peu, en capture, ce serait très bien ça. Mais globalement, vous avez une approche assez optimiste, pour le moins, de la façon d'apprécier la nature favorable des dépenses. De la même façon, pour un montant bien moindre, les véhicules électriques, on le sait, ont un impact très négatif, mais de façon globale, tous les véhicules ont un impact très négatif. Et écrire tenir compte du fait que les véhicules électriques aient un impact favorable, et là aussi, encore une fois, je le reconnais, les méthodes ne sont que des indications, et là aussi une analyse plutôt optimiste de la question. Donc ma proposition, si vous l'acceptez, c'est à l'avenir d'avoir une approche peut-être plus critique sur le classement à apporter à vos investissements vis-à-vis des critères d'impact environnemental. Merci.
Merci, Madame Gendreau.
Oui, Monsieur le maire, excusez-moi d'intervenir. Je n'ai pas prévu, parce que c'est vrai que les chiffres sont à peu près les mêmes que ceux dont on a longuement débattu le mois dernier, donc pas envie forcément de me répéter. Je m'étais juste interpellée par ce qu'a dit Monsieur Scheer au propos de la dette sur la dette par habitant. Je l'ai entendu prononcer le chiffre de 97 euros. Je vois dans le document, page 28, 97 euros. Et il y a eu une campagne d'affichage sur l'affichage de co financé par le contribuable de votre part sur votre politique on va dire de désendettement qui affichait 82 euros de dette par habitant. Donc c'est 15 euros de moins que ce qui apparaît dans les documents financiers de ce que vous dites en conseil municipal. Est-ce que la dette a augmenté de 15 euros en un mois ou voilà. D'où vient l'erreur? Pourquoi on communique sur 82 euros quand en réalité il s'agit de 97 euros?
Alors ça c'est très simple puisque 97 euros c'est 2024 et 82 euros c'est 2025. Et donc on a communiqué sur 2025 et donc le profil de la dette c'est bien marqué 82 euros, c'est par rapport au document budgétaire qui est le document qu'on a passé pour cette année. Là on est en train d'étudier l'ex-compte administratif sur l'année 2024. Donc en fait, comme on continue à rembourser, forcément on a moins de dettes encore en stock et donc on se retrouve avec 82 euros. Et quand on va aller l'année prochaine, s'il n'y a pas de réendettement qui est fait, ça va encore baisser et puis d'année en année. Puisqu'en fait, on rembourse au fur et à mesure. Oui, Madame Gendreau.
Je reconnais bien là le maître de la communication, c'est-à-dire que vous communiquez sur des faits qui ne sont pas réels au moment où vous communiquez largement dessus, et vous communiquez sur des faits qui seront réels et constatés dans un an. Donc vous anticipez d'un an une situation. C'est ce que vous nous dites, puisque vous me dites que ça, c'est les chiffres 2024 et que ce sera 2025. Oui. Mais on est en avril 2025, donc l'année n'est pas finie. Donc vous annoncez ce qui sera vrai fin 2025, comme une réalité d'aujourd'hui.
Non, puisqu'on rembourse sur le premier trimestre, donc on a déjà l'estimation de la dette, puisque tant qu'il n'y a pas d'emprunt supplémentaire qui est fait, on sait la dette par habitant, puisque c'est un calcul qui peut se faire en début d'année comme en fin d'année. On sait combien on aura de dette sur une année si on ne se réendette pas. Donc 82 euros, c'est la dette par habitant sur l'année 2025. C'est bien précis, ça n'a pas été, caché ou autre. Enfin, j'avoue que là, je n'arrive pas à comprendre. parce qu'on est sur 2024, après 2025, après 2026, et c'est pas tout, voilà, enfin, je... Oui, monsieur Barman.
Enfin, je découvre quand même avec votre réponse que vous êtes capable de beaucoup plus d'anticipation que vous ne le laissez entendre lorsqu'il s'agit de faire un budget. Où vous nous expliquez que non, on ne peut pas discuter des orientations budgétaires en fin d'année parce que rien n'est sûr et on n'a absolument aucun chiffre. Mais là, en l'occurrence, vous nous sortez des éléments qui sont certains et qui sont pourtant une perspective. Et là, vous n'avez aucune difficulté. Donc, c'est un petit peu un langage à géométrie variable.
Non, je ne crois pas, parce qu'en fait, vous qui êtes dans le secteur bancaire, vous savez comment on fait des calculs de dette. Et à partir du moment où on ne se réendette pas aujourd'hui et qu'on a un stock de dette, on est capable de le diviser par le nombre d'habitants et de dire ça fait tant de dettes par habitant. Enfin, je veux bien qu'on puisse raconter tout ce qu'on veut, mais là, c'est assez factuel. Enfin, je veux dire, c'est un calcul, une division, et c'est facile d'anticiper, puisqu'à partir du moment où on ne se réendette pas... On a un stock de dettes et à un moment, on le calcule par rapport au nombre d'habitants, sachant qu'il n'y a pas des recensements quand même tous les 4 matins avec des remises au nombre d'habitants d'INSEE. Donc, on le divise par le nombre d'habitants à l'instant T et ça donne ça. Donc, je pense que factuellement, au moment où on a communiqué, il y avait 82 euros de dette par habitant et il y avait 97 euros l'année d'avant. Donc, Et c'est d'ailleurs comme la méthodologie d'I4CE. À un moment, on a appliqué la méthodologie avec les services. Il y a eu tout un travail qui a été fait d'évaluation, notamment sur le hall des sports, puisque le hall des sports va au-delà des normes qui sont en vigueur, puisqu'il n'y avait pas d'obligation pour l'équipement sportif d'aller notamment sur une enveloppe passive. Ça a été un choix. Il y avait le choix de pouvoir le recouvrir de panneaux solaires avec une production d'énergie supérieure à ce que le bâtiment va consommer, et donc il y a eu ce choix-là de dire on va au-delà, la citerne de récupération d'eau qui est assez importante sur le bâtiment, donc on a optimisé le plus possible en fait les capacités du bâtiment sans y être contraint, donc on va au-delà des normes en vigueur, et donc on a appliqué la méthodologie qui aujourd'hui est celle d'I4CE, que d'autres collectivités qui sont mises au budget vert appliquent. Après on peut discuter, ça reste une méthodologie, vous le disiez, ça reste une méthodologie, ça reste aujourd'hui une interprétation, mais comme l'État nous invite à mettre en œuvre le budget vert et à s'appuyer sur ce référentiel en particulier, il y en a d'autres, mais ça fait partie des référentiels sur lesquels on doit prendre attache, eh bien on prend finalement le référentiel, la méthodologie, et puis on classe en fonction des différentes dépenses de la commune, et c'est comme ça que ça a été fait avec les services, ça a fait l'objet de tout un travail approfondi du service des finances, et ça donne cette photographie. Après, moi, je pense qu'il faut, c'est comme toute interprétation par rapport à un budget vert, je ne pense pas qu'il faille faire du budget vert une fin en soi. C'est intéressant de pouvoir avoir une photographie à l'instant T, se dire quelles sont les dépenses qui sont notamment classées en défavorable, parce que quand on a des dépenses en défavorable, peut-être que sur les dépenses en défavorable, il y a des choses à mettre en œuvre pour les rendre plus favorables, comme les dépenses qui peuvent être neutres, peut-être qu'on peut les rendre favorables, mais c'est plutôt pour avoir une démarche de progression et d'amélioration que réellement pour se dire « Ah, c'est super, j'ai un budget très vert ou j'ai un budget pas vert ». Ce n'est pas forcément ça l'objet du budget vert. On est vraiment là pour essayer de construire plutôt une démarche d'amélioration continue de la collectivité, mais c'est quand même intéressant de voir que dès à présent, on a un certain nombre d'investissements qui sont faits avec cette préoccupation qui est quand même pas une préoccupation qui est forcément aussi récurrente dans les autres collectivités. Et donc, je pense que c'est bien de voir qu'il y a une politique qui est menée sur le fait qu'on soit dans l'ambition à chaque fois sur les différents équipements qui sont mis en œuvre dans la collectivité. Et que, par exemple, on passe plutôt sur des véhicules électriques, sur le parc de véhicules, sur le renouvellement, sachant qu'on est quand même sur la bonne typologie de circulation sur des véhicules communaux par rapport aux véhicules électriques, puisqu'on reste sur des parcours qui sont assez réduits dans un périmètre urbain, et donc le véhicule électrique s'avère être la bonne alternative, ce qui ne serait peut-être pas le cas si on était sur un autre type de collectivité qui a beaucoup plus de kilomètres à faire, où parfois on peut se poser la question de savoir si le véhicule électrique répond tout à fait et coche les cases, notamment par rapport aux besoins des agents dans les services. Mais en tout cas, voilà, après, on peut discuter, mais ce n'est pas nous qui avons fixé la méthodologie des 4CE. Donc, Donc voilà, tout comme ce n'est pas nous qui avons fixé ce ratio de dette par habitant, ce qui veut, sachant quand même que c'était un document qui était bien mis à jour en 2025 et que, pour le coup, c'est bien d'accuser à chaque fois sur ces campagnes, mais vous savez que les espaces JC Déco sont mis à disposition de la commune dans le cadre du contrat avec l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc, nous ne payons pas ces affichages dans les JC Déco. C'est pour ça que nous les utilisons, puisqu'ils sont mis à disposition de la commune. Et donc, ils sont utilisés régulièrement. En ce moment, il y a la campagne pour promouvoir le printemps des bretelles qui commence demain. Mais c'est des espaces qui sont mis à disposition. Donc, enfin, je pense qu'on serait bête de ne pas utiliser ces espaces alors qu'ils sont gratuits et qui permettent de pouvoir donner différents types d'informations. Donc, il ne faut pas dire que c'est une campagne qui offrait du contribuable parce que... ce n'est pas des campagnes qui coûtent réellement aux contribuables, puisqu'on ne va pas passer un contrat avec JC Déco en payant chaque emplacement le prix que payent les annonceurs qui ont des annonces dans les abribus ou autres. Et donc, je vais passer la présidence de séance à Serge Scheuer, puisque vous savez que le maire doit sortir pour le vote de ce compte financier unique comme pour le compte administratif.
Bien, je vous propose donc de passer au vote du compte financier unique. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, je vous remercie.